Europe Soir Weekend.
Wendy Bouchard.
Les grandes voix.
Les grandes voix de ce 9 mai en débat jusqu'à 19h. Avec nous ce soir, Laetitia Krupa, journaliste politique, Bruno Jeudy, éditorialiste politique et rédacteur en chef à Paris Match, et Yves Tréhard, directeur adjoint de la rédaction du Figaro, éditorialiste également. Madame et messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Wendy, bonsoir à tous.
Alors je voudrais déjà qu'on commence ce débat avec ce pèlerinage politique, appelons-le comme ça, au Creusot. Un cortège de personnalités pour honorer la mémoire de François Mitterrand, pour honorer la victoire de la gauche, la fera donc 40 ans demain, le 10 mai 1981. Nous avions sur la photo François Hollande, Lionel Jospin, Bernard Cazeneuve, des ex dans le sérail ou des politiques en place qui prétendent à d'autres fonctions, peut-être comme Anne Hidalgo. D'abord, la posture et l'idée, faire vivre aux nouvelles générations cette idée qu'un sursaut de valeur est possible avec cette alternative politique. C'est important pour ressouder les troupes, ça, Yves Tréhard, à gauche, qui en ont besoin.
Oui, bien sûr. Bah, c'est la... Vous savez, il y a quelques figures tutélaires dans la gauche française. Il y a Jaurès, il y a Blum, d'une certaine façon Mendès France, et puis Mitterrand. Et Mitterrand, ça a été la dernière des grandes figures qui est restée, il ne faut pas l'oublier quand même, c'est celui qui a le présidé le plus sous la Ve République. Deux mandats de 7 ans, 14 ans, dont deux de socialisme et le reste qui n'était absolument pas socialiste, il faut le souligner. Les marchés financiers ne se sont jamais aussi bien portés que sous Mitterrand après 88. Et c'est assez normal que la gauche essaye de retrouver un sursaut ou un souffle en creusant dans les mannes mitterrandiennes, je dirais, parce que la gauche est bien malade. Moi, je ne crois pas que la gauche soit morte, pas du tout. Mais simplement, elle manque sérieusement de renouvellement dans les idées, elle manque d'incarnation, et elle se cherche. Et cette gauche, eh bien, malheureusement, pour elle, l'avenir me paraît assez sombre, même si on parle beaucoup de Madame Hidalgo, mais les études d'opinion montrent que Madame Hidalgo ne décolle pas, en tous les cas. Elle arrive avec beaucoup de mal à se faire une place. Et donc, c'est assez normal, je trouve, que les gens de gauche se réunissent.
Il y a un duel d'interprétation, pardon, parce que regardez la jeune génération, l'autre génération, disons, Olivier Faure, premier secrétaire du parti, n'est pas allé au Creusot, il était à la marche pour le climat.
Mais lui, il fait de la politique.
Il fait de la politique, mais vous avez raison, il y a un manque cruel d'incarnation. Yves, c'est vrai que c'est flagrant, mais il y a aussi un manque cruel d'idées. Et pourtant, ils ont un boulevard devant eux, les protagonistes de la gauche, tout ce qui est dans le champ social, pour l'instant, est quand même laissé en friche, il me semble, par Emmanuel Macron. Et il n'arrive pas à occuper le terrain qu'il devrait occuper d'habitude. Donc je ne comprends pas pourquoi la gauche ne se saisit pas de thématiques qui lui sont complètement chères, cohérentes, et puis chères aux militants, et qui pourraient redonner du souffle. Là, pour l'instant, ils sont dans un atermoiement, dans une certaine paralysie. Alors oui, il manque de chefs, mais enfin bon, si les idées sont fortes, peut-être qu'on trouve une incarnation, on peut rêver un petit peu, hein, mais je ne comprends pas cette paralysie.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais j'y reviendrai après.
Commémorer pour avancer, Bruno Jeudy, ça a du sens. Le 10 mai 81 en a une de signification, en tout cas. Cette alternative, la première.
C'est le 10 mai, le 9 mai, déjà, tant au Creusot qu'à l'Hôtel de Ville, puisqu'à l'Hôtel de Ville, il y a également un colloque ce soir avec... d'autres amis de François Mitterrand. Ils étaient nombreux et au fond, aujourd'hui, à gauche, il leur reste la nostalgie, Anne Hidalgo et l'écologie. On voit, vous venez de le dire, qu'en plus, Anne Hidalgo et l'écologie...
C'est
pas encore le mariage. L'une est la vedette au Creusot et à l'Hôtel de Ville, puisqu'on voit bien qu'elle a été mise en avant dans ces cérémonies. Au fond, c'est leur principal et sans doute seul atout aux socialistes, même si elle est très basse dans les sondages aujourd'hui, mais qui sait où on en sera au mois de décembre 2021, où en sera la vie politique française. Il faut toujours se méfier et être prudent. La deuxième chose, par contre, ce qui est plus difficile, c'est qu'on voit bien que le mariage entre les écologistes et les socialistes sera difficile finalement à faire, parce que là, il y a vraiment des sujets de fond qui les séparent. La laïcité, on l'a vu avec Anne Hidalgo qui s'est frottée à eux. Il y a aussi cette fameuse matrice écologiste qui est la décroissance et qui ne plaît pas à bon nombre de socialistes. Et puis, il y a aussi évidemment les personnes. Aucune n'incarne vraiment un leader incontesté et incontestable, ni Yannick Jadot qui, j'allais dire, est député européen et donc ne montre pas vraiment ce qu'il pourrait faire concrètement, et Anne Hidalgo dont on sait qu'elle est contestée. Mais bon, oui, commémorer pour avancer, moi, je crois toujours que les Français aiment beaucoup, sont assez nostalgiques, quelle que soit de l'époque. Et ils sont, pour certains, nostalgiques de l'époque Mitterrand.
Oui.
Mais au fond, c'est quelque chose qui passe et vite.
C'est ça.
Je ne suis pas sûr qu'il en reste grand-chose, j'allais dire, le 11 ou le 12 mai.
Et
quoi.
Surtout l'adresse pour les nouvelles générations, ça, vous n'y croyez pas du tout. Parce que c'est un peu le message, quand même. Hein, c'est montrer justement ce qui peut se reproduire.
Bien sûr, mais là où je voulais tempérer un petit peu ce qui a été dit, c'est que... Je pense qu'il y a eu, après l'élection de 2017, une grave erreur de commise par Jean-Luc Mélenchon, qui est un ancien socialiste, d'ailleurs, qui est un ancien membre du Parti socialiste. La gauche a cru que, comme Emmanuel Macron était issu de ses rangs, même si c'était très lointain et assez pâle, c'est une gauche assez pâle, on s'aperçoit d'une chose, c'est que l'électorat, contrairement à ce qu'on avait imaginé, aujourd'hui, l'électorat de centre-gauche est plutôt resté fidèle à Emmanuel Macron. Et la grande erreur, à mon avis, d'une partie de la gauche, et notamment de Jean-Luc Mélenchon, qui avait quand même fait pas loin de 20% des voix au premier tour de l'élection de 2017, c'est que plutôt que de se centrer, d'être la figure centrale de cette gauche et d'essayer de la rassembler, il s'est déporté sur la gauche, plus que jamais. Et d'ailleurs, les appels à la sédition, c'est un peu lui qui les a envoyés les premiers, bien avant les militaires, en 2018. Et donc là était l'erreur, à mon avis, d'une partie de la gauche, d'une partie des responsables de gauche, c'est qu'ils n'ont pas réussi à appréhender l'électorat de gauche. Et cet électorat de gauche, eh bien, de centre-gauche, il est resté, d'une certaine façon, fidèle à Emmanuel Macron. Et donc là, ils sont un peu perdus. Et moi, je pense qu'il y aura une très grosse abstention de l'électorat de gauche en 2022.
Et d'ailleurs, Yves, moi je vois, parce que bon, dans le sondage qu'on publie chaque mois avec l'IFOP à Paris Match, on voit dans chez les Français, dans la confiance qui est faite à Emmanuel Macron, aujourd'hui, contrairement à une idée reçue, c'est plus l'électorat de gauche socialiste, social-démocrate, qui fait confiance au président. Que l'électorat de droite
où
Emmanuel Macron, il s'effrite pas, il baisse beaucoup.
Il baisse beaucoup. Oui.
Là, je vois celui qu'on va publier jeudi, dans les électeurs qui ont voté pour François Fillon au premier tour, c'est moins 17 points. Donc on voit bien qu'à droite, il se passe quelque chose, il y a des blocages, la sécurité, tous ces thèmes-là sont en train de provoquer des interrogations à droite sur Emmanuel Macron. Alors qu'à gauche, ça ne bouge pas tant que ça.
Faute d'alternative.
Il y a un socle, je trouve, de confiance assez
Macron,
solide.
Quand on est socialiste, c'est Macron ou Mélenchon, vous avez raison. Mélenchon, il est parti à l'extrême gauche. Donc, non mais mettons-nous à la place des électeurs socialistes, que faire? On va vers Emmanuel Macron. Anne Hidalgo, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qu'elle propose. Olivier Faure, moi, honnêtement, d'un point de vue tout à fait personnel, je ne trouve pas du tout nul. Je ne sais pas, je ne comprends pas du tout pourquoi il est toujours méprisé par tous les éditorialistes, par tous les médias. Je trouve que c'est un homme qui mérite d'être entendu.
La politique, c'est aussi le charisme.
Et voilà, qu'est-ce qui se passe avec Olivier Faure?
C'est pas une insulte que de dire. Oui. Que Olivier Faure, qui est un esprit construit,
Il ne s'est pas positionné pour être un candidat à la présidentielle, Laetitia, jusqu'à présent, Olivier Faure. Il s'est positionné plutôt
pour être quelqu'un qui apporte... Oui, mais peut-être qu'on peut compter sans être candidat à la présidentielle.
En tout cas, vos analyses croisées nous amènent à un autre combat de terrain, celui-ci. Alors là, on sort des valeurs pour comprendre un peu la stratégie d'Emmanuel Macron, de La République En Marche, dans tout ça, qui finalement nationalise un scrutin en plaçant en concurrent direct à Marine Le Pen... sur la liste du Pas-de-Calais, en tête de liste, en mission commandée, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Vous allez l'écouter, ce candidat qui s'est déclaré il y a quelques heures, et nous réagissons ensuite.
C'est une escroquerie que de dire aux gens qu'on va les représenter. Et puis une fois qu'on est élu, regardez d'ailleurs, s'agissant de M. Bertrand, il s'investit ici dans la région, mais il dit « je veux aller à l'Élysée ». On ne peut pas à la fois être à la région et à l'Élysée. Quant à Mme Le Pen, elle n'est ni dans sa circonscription, ni à l'Assemblée nationale. Elle doit préférer le château de Saint-Cloud, où elle se sent bien sans doute.
Alors, comment comprenez-vous cette stratégie, Éric Dupond-Moretti envoyé en mission, Yves Tréhard, il vise qui là? Parce que ça, c'est le strike. Marine Le Pen, Xavier Bertrand.
Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est effectivement assez contradictoire avec la philosophie, en tous les cas, affichée d'Emmanuel Macron. Mais Emmanuel Macron n'arrête pas de répéter que les élections locales doivent rester locales. Et il a tout intérêt à le répéter, puisqu'il y a absolument pas d'ancrage du macronisme dans les territoires. Il n'y a pas d'élus qui sont issus de son parti, qui était un parti, une coquille vide, et qui est en plus très moderne.
Et là, il envoie la star du gouvernement.
Très récent. Et là, on a l'impression, si vous voulez, qu'il y a une opération commando, qui est une opération commando qui, d'ailleurs, est, à mon avis, vouée à l'échec, pour faire un mauvais coup, d'une certaine façon, à Xavier Bertrand. C'est évident. Xavier Bertrand est le favori de la droite aujourd'hui dans les sondages. Et si l'électorat se parcellise dans les Hauts-de-France, eh bien, ça peut coûter cher à Xavier Bertrand et ça peut, au contraire, profiter beaucoup au Rassemblement National.
C'est un jeu
comme
très dangereux.
Partout.
Oui, c'est un jeu très dangereux, Laetitia Crépa.
Oui, mais je me demande, c'est peut-être un peu naïf, mais je me demande si on ne se trompe pas d'enjeu. En fait, on focalise parce que les médias, on aime bien avoir des personnages comme ça, du storytelling, des héros, alors que c'est vrai que le duel annoncé du Dupond-Moretti-Le Pen, qui n'est pas ce duel-là hein, sur le terrain, ça excite beaucoup les commentateurs. Mais est-ce que c'est quand même Sébastien Chenu qui se présente en tête de liste du RN? Est-ce qu'il a ses chances? C'est sa première candidature. Le RN, on le sait, alors LREM n'a aucun ancrage, mais enfin, le RN est plus vieux, mais parce que c'est quand même le FN, et n'a jamais réussi non plus à s'implanter d'un point de vue territorial. Et celui qui est là, oui, c'est Xavier Bertrand.
Plus de 40% en 2015.
Ouais.
Hein,
oui, mais c'était moins d'eux. Hein,
en 2015, si la gauche ne retire pas sa liste, ils sont élus. Hein.
Mais là, est-ce que vous pensez vraiment que Dupond-Moretti va faire basculer
Exactement le contraire.
Le contraire,
il y a une stratégie qui est totalement illisible de la part de la REM. Je ne comprends pas qu'on veuille faire absolument un accord, ce qui va sans doute se passer, une espèce d'accord local entre Renaud Muselier, les Marcheurs et d'autres en PACA, quand on est plutôt à vouloir prendre des voix à Xavier Bertrand, parce que je ne pense pas que Dupond-Moretti prendra des voix au RN dans le Nord. La vérité, c'est que c'est une drôle de stratégie. Alors, je comprends.
Est-ce qu'on tue?
Éric Dupond-Moretti va attirer les médias là où le pâle et discret secrétaire d'État, Laurent Pietraszewski, qui est la tête de liste, en fait, dans les Hauts-de-France, a du mal aujourd'hui à dépasser la barre des 10%, ce qui provoquerait l'élimination pure et simple de la REM direct dès le premier tour. Au fond, c'est simplement Emmanuel Macron, qui, semble-t-il, avait plutôt dit non à Éric Dupond-Moretti d'aller en campagne. Il a changé d'avis en début de semaine. Éric Dupond-Moretti est candidat. Ça permettra sans doute à Laurent Pietraszewski peut-être de gagner quelques points et d'être présent. On voit bien la stratégie, ça va être le baiser qui tue, c'est-à-dire d'un Xavier Bertrand qui, on va lui proposer, la REM va lui proposer naturellement de faire un accord dans l'entre-deux-tours.
Ça va l'affaiblir pour 2022, c'est ça?
Il ne voudra pas, probablement, et du coup, ils retireront leur liste, qui sera ce que j'appelle le baiser qui tue. Tu ne peux pas gagner si on ne retire pas notre liste ou si tu nous acceptes pas. Donc c'est un moyen aussi d'affaiblir Xavier Bertrand.
Oui. Concurrent potentiel pour 2022.
Jeu dangereux. Il ne faudrait pas qu'à l'arrivée, il y ait des présidents RN en PACA, en Haute-France.
Ça fait beaucoup de stratégie visible.
Il risque d'y avoir des victoires, effectivement, plus que jamais. Comme en 2015, d'ailleurs. En 2015, je vous rappelle quand même que les socialistes se sont retirés en PACA et qu'ils se sont retirés dans les Hauts-de-France pour faire barrage. S'il ne s'était pas retiré, à la fois Marion Maréchal en PACA et Marine Le Pen dans les Hauts-de-France à l'époque, eh bien, gagnaient. Hein. Ces deux régions occultent un peu le reste, mais il y a aussi ailleurs des risques de victoire du Rassemblement National. De potentialité, puisque...
Et si le Rassemblement National gagne, Xavier Bertrand se retient.
Ce qu'il faut dire, c'est que deux présidents qui sont potentiellement candidats à la présidentielle, Madame Pécresse et Monsieur Bertrand, ont déjà dit que s'ils perdaient cette élection, ils se retiraient de la politique.
Donc voilà, c'est un coup double. Enfin, ils visent très clairement la stratégie 2022. C'est ça qui est très vicieux.
Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire d'une France qui, le 28 juin, se réveille avec deux régions RN, par rapport à l'étranger, par rapport aux investisseurs, par rapport à ce que ça représente, c'est pas rien. Enfin, ce sont des grandes régions. C'est un jeu extrêmement dangereux.
Eh bien, on en reparlera, chers amis et grandes voix d'Europe 1. On va se retrouver dans un instant. Je voudrais que nous parlions de l'enjeu sécuritaire qui rejoint aussi cette campagne. Les mots très forts du père du brigadier Éric Masson, tué en opération en Avignon, qui demande que cette mort ne soit pas exploitée politiquement, bien sûr. Mais les policiers ont manifesté aujourd'hui à la fois leur émotion et leurs inquiétudes. Ils seront reçus demain par le Premier ministre et on y vient.
Europe Soir Weekend. Wendy Bouchard. Les grandes voix.
Les grandes voix en débat jusqu'à 19h avec nous ce soir. Laetitia Krupa, Yves Tréhard du Figaro, Bruno Jeudy de Paris Match et ce grand recueillement hier à Bédarrides, la commune d'Éric Masson, ce brigadier. 5000 personnes pour saluer sa mémoire. Aujourd'hui, le même recueillement, la même émotion en Avignon et nous y reviendrons à 19h15 avec à la fois un commandant de police et un spécialiste du banditisme. Mais je voudrais vous faire réagir tous les trois à notamment cette... Ce message plein de pudeur dans le JDD du père d'Éric Masson. Personne ne doit récupérer ce drame, car c'est bien la tendance à l'approche de chaque scrutin électoral. Il y a ce glissement sécuritaire, il y a cette récupération. Même si on a un fond de violence, aujourd'hui, qui inquiète à la fois le président de la République, il l'a dit hier, Gérald Darmanin, son ministre de l'Intérieur, Yves Tréhard.
Oui, mais dire que ça ne doit pas être récupéré, c'est prêcher dans le désert.
C'est
enfin,
vrai.
Écoutez,
c'est...
D'abord c'est parce qu'il y a une réelle inquiétude. Et puis, il ne faut pas oublier que la sécurité, c'est un sujet éminemment politique. Parce que ça engage à la fois la sécurité et l'action des gardiens de la paix, parce que nous ne sommes pas en guerre et ce ne sont pas des soldats, sur la voie publique, qui doivent protéger et écouter les administrés. Et ça engage aussi le système et notre système judiciaire. Alors, on ne connaît pas encore le profil, parce que je vous rappelle quand même que le meurtrier est encore
en
cavale.
80 enquêteurs
à ses trousses. C'est quand même assez hallucinant. Mmh. Moi, je trouve ça tout à fait normal qu'il y ait un débat politique. Alors, il y a évidemment débat et débat, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont beaucoup trop loin, qui font une récupération misérable, je dirais. Mais il y a quand même des questions qu'il faut se poser. Il y a quand même une délinquance qui augmente considérablement dans notre pays. Et il y a surtout, plus qu'une délinquance, une violence spontanée sur le champ, à chaque coin de rue, qui peut être motivée par le trafic de drogue, et Dieu sait si elle l'est, mais pas uniquement, puisqu'on peut vraiment vous vouloir du mal pour un oui ou un non, un regard. Donc il y a une réelle inquiétude, je crois, certainement, chez les Français. Donc c'est un sujet politique, je comprends. Évidemment, l'appel au calme de ce monsieur, et il a tout à fait raison d'ailleurs, mais il ne faut pas croire que la sécurité, c'est un truc qui peut faire l'unanimité. D'ailleurs, si vous écoutez M. Mélenchon, encore lui aujourd'hui, qui a tenu des propos presque indignes sur ce sujet, d'autres responsables politiques, vous voyez que tout le monde ne pense pas la même chose.
Je rebondis, Yves Tréhard, ce que vous dites, le champ lexical de la guerre. Gérald Darmanin en a reparlé, hein, et cet homme est mort... En héros, c'est un soldat,
non,
nous sommes
héros.
Engagés dans une guerre. Non, mais c'est intéressant parce que.
Fonction.
Oui, bien
voilà.
sûr, bien sûr.
Mais,
c'est des
messages
voilà
qu'il envoie aux policiers. On sait que les policiers, là, depuis les Gilets jaunes, sont comme un sous-aidant. Il y a quand même une énorme tension.
Oui, mais
entre,
ils n'en veulent pas de ces messages-là,
entre,
justement.
Oui, d'accord, mais enfin, c'est peut-être maladroit de la part de Darmanin, mais c'est de la communication politique, pour le coup. Voilà, c'est les valoriser que d'employer ces termes un peu caricaturaux. Mais vous avez raison, Yves, c'est éminemment politique dans la mesure où le chef de l'État lui-même a dit que la violence augmentait, que ce n'était pas un sentiment. Vous savez, il y a toujours ce débat
réelle,
entre
ouais.
le sentiment de l'insécurité, de la violence et la violence réelle. À partir du moment où Emmanuel Macron déclare « oui, elle augmente », il faut bien sûr apporter
bien
des
de
solutions.
C'est voilà. dommage de faire le constat en fin de mandat.
Bah voilà.
Ça fait déjà un petit moment.
Exactement.
Gérard Collomb l'a dit en quittant le ministère de l'Intérieur sur les marques de
Beauvau oui,
avec un discours incroyable qui était un discours de vérité. D'ailleurs, les faits lui donnent raison deux ans plus tard. On se demande pourquoi il a déserté le ministère. D'ailleurs, au passage, ça ne lui a pas porté chance. Non, moi, je trouve que je repartage ce que dit Yves. Je pense qu'Emmanuel Macron a très, très, très largement et trop longtemps sous-estimé cette question. Il ne s'était pas du tout préparé au sujet régalien. Il a pris la mesure sur le dossier militaire. Il a tenu la promesse des 2% du PIB. Il a plutôt pris la mesure sur le dossier militaire. Sur le dossier de la sécurité, écoutez, il a eu un premier ministre de l'Intérieur qui a déserté la fonction. Il en a eu un deuxième qui a été quasi démissionné par les syndicats. Le troisième, il fait ce qu'il peut. Il arrive à la fin du mandat. Je trouve qu'il met les choses. Il a plutôt calmé la maison déjà avec les syndicats. Il essaie de mettre les choses en place sur le deal, notamment en investissant sur les enquêtes sur les points de deal et tout ça. Mais on voit bien que ça arrive tout ça beaucoup trop tard. Ça a été sous-estimé. Et là, aujourd'hui, on nous annonce 10 millions pour aider les commissariats. Mais 10 millions, qu'est-ce que c'est? Il y a combien de commissariats dans le pays?
Et qu'on est surtout à la remorque de la violence. C'est-à-dire qu'on est toujours en réaction. Parce que je suis d'accord qu'il faut bien sûr renforcer les forces de sécurité.
Renfort de 70 CRS ce soir, c'est la réaction à la nuit dernière.
Il faut renforcer les réponses pénales. Ça, on est d'accord. Mais en fait, ça, c'est une fois que la violence a eu lieu, mais avant, enfin, que fait-on avant?
Mais il faut renforcer les réponses pénales, mais elles n'y sont pas.
Mais avant, Bruno...
Tous les rapports disent que...
Jean-Louis Borloo est arrivé avec un plan de la ville, on l'a méprisé. Donc il y a un moment, il faut arrêter de penser à après-coup.
Le taux d'application des peines n'est pas bon.
Il y a 70 000 peines qui ne sont pas exécutées en France tous les ans.
Je veux dire, les peines, il y a des peines de prononcer, elles sont souvent sévères. Il suffit d'aller dans les tribunaux.
Mais les peines ne sont pas appliquées.
Le problème,
pour moi,
c'est
nécessaire, mais ce n'est pas suffisant si on n'agit pas en amont.
Manque sérieusement de moyens. Ça, on peut. C'est quand même le budget.
En France,
c'est 63 € par Français pour la justice. Mmh. C'est 120 en Allemagne. Mmh. Donc il y a un déficit énorme qu'il faut rattraper. Il a commencé à être rattrapé cette année avec 8% d'augmentation. Mais c'est aussi, je dirais, une bureaucratie. Et là, il a raison, Dupond-Moretti, d'ailleurs, la justice qui est infernale. C'est un labyrinthe kafkaïen qui fait que vous avez des gens qui commettent le pire et qui sont connus des services, qui sont des repris de justice, qui ont déjà été condamnés. Je vous rappelle ce féminicide à Mérignac, qui est tout à fait invraisemblable.
Oui. Non, mais punir, c'est nécessaire. L'exemplarité des peines, bien sûr que c'est dans une société un décimant, mais il faut aussi prévenir. Je suis désolée, on est que dans des réponses après coup et avant.
Faisons déjà les réponses. La prévention, c'est important, mais on ne fait déjà même pas les réponses. Donc,
Bruno Jeudy, Yves Tréhard, Laetitia Krupa, merci pour ce débat des grandes voix au cœur de cette violence ordinaire à laquelle sont confrontés les policiers. On y revient à 19h15, c'est notre débat ce soir avec Christophe Rouget, notamment commandant de police. Merci à tous les trois.